Bonjour. Merci Luc et Solveig. T'es très content aujourd'hui de travailler sur Grant Morrison. J'avais peur qu'il refuse. Et c'est qu'en fait, je viens pas du tout de cette culture-là, punk, on va dire. Moi, je suis littéraire à la base. Et en fait, c'est plus un travail qui a été inspiré par les travaux que j'ai pu faire il y a longtemps sur la littérature fin de siècle en Grande-Bretagne et en France. Et j'avais envie, j'espère que vous allez comprendre pourquoi, de justement vous présenter Grant Morrison pour ceux qui le connaissent pas. Donc Grant Morrison, il est né le 31 janvier 1960 à Glasgow. Donc il est scénariste de comics et il est également dramaturge. Il a réalisé un des principaux ouvrages de référence sur le comics qui s'appelle Super Gods, que je vous conseille, qu'il a édité il n'y a pas longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre très rapidement sur Grant Morrison? Il a commencé comme à la fois scénariste, ce qui arrive assez souvent, scénariste et dessinateur de ses propres comics, donc de 1978 à 1980 dans le magazine Near Myth, donc qu'on trouvait à Édimbourg. Ensuite, beaucoup plus récemment, il a pris la tête de Heavy Metal. Alors Heavy Metal, c'est la version anglaise de Metal Hurlant, donc qui était dirigée qui a été publiée de 1975 à 2006, version anglaise donc de Metal Hurlant par Jean-Pierre Dionnet et Philippe Manœuvre. Donc Heavy Metal était important, plutôt Metal Hurlant était important pour Grant Morrison parce que c'est là qu'il a connu tout simplement Bilal, Druillet et Mobius. Donc, je vais faire un rappel vraiment très rapide du comic book anglo-saxon. Faut savoir qu'au sortir de la Seconde Guerre mondiale, le comic book n'est réservé que aux enfants et aux adolescents. Donc ils ont un contenu qui est adapté uniquement à un jeune public avec un message politique qui est dominant, où il n'y a absolument aucune espèce de polémique. En 1954, il y a le Comic Book Authority qui commence à censurer très largement toutes les publications pour la jeunesse et toutes les publications de bandes dessinées en Angleterre à la fois et aux États-Unis. Et puis il y a Frederick Wertham, qui est un psychiatre autrichien, qui a commencé en 1954 également à critiquer largement ses bandes dessinées, pour une très bonne raison, c'est qu'il expliquait que ça faisait la promotion de l'homosexualité. Alors ça fait rire aujourd'hui, mais c'était quelque chose de très important à l'époque. En France, il y a eu un article assez célèbre de Jean-Paul Sartre sur les comics, où il expliquait, c'était un article qui était très peu documenté, qui était très peu scientifique, où il expliquait qu'en fait les comic books de l'époque des années 52, des années 60 étaient simplement des suppôts du capitalisme et surtout qu'ils étaient antisémites. Alors c'est vraiment très mal vu puisque à l'époque la très très grande majorité des scénaristes de comics étaient juifs, mais manifestement ils ne le savaient pas. Je vais mentionner le magazine 2000 AD. 1977, qui est extrêmement important puisqu'il va y avoir un certain nombre d'auteurs de ce qu'on a appelé la British Invasion qui vont commencer dans ce magazine. Alors, je ne vais pas revenir dessus, j'ai fait un tableau. Voilà, vous avez les principaux tenants de la British Invasion. En grand, j'ai mis Alan Moore de Northampton, donc, qui a en fait révolutionné le comics vers 1986 avec Watchmen. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre comme introduction? Oui, alors l'influence des jeunes gens punk sur la bande dessinée a été extrêmement importante à cette époque, tout simplement parce que la plupart de ces dessinateurs que vous voyez, ou de ces scénaristes plutôt que vous voyez, Neil Gaiman, Warren Ellis, Jimmy Delano, ont tous fait partie d'un groupe punk à un moment ou à un autre. Neil Gaiman, il a fait partie du groupe punk XXX. Il continue à enregistrer plus ou moins régulièrement avec son épouse Amanda Palmer, ex-Dresden Dolls. Vous avez Grant Morrison lui-même qui a fait partie du groupe The Mixers et The Fauve. Alors l'intérêt... Pourquoi j'ai mentionné la censure, c'est que très vite, le fait d'être punk et de travailler dans ce milieu de la bande dessinée, ça va être un travail contre la censure et pour la liberté d'expression. Justement, le fait est qu'il fallait aller beaucoup plus loin qu'un rapport de surface. Et là, vous voyez une des grandes influences de la bande dessinée sur le monde du rock'n'roll avec Elvis, qui reprend un des habits de Captain Marvel. Donc, parce que c'était sa bande dessinée favorite. Donc là, ce que je vais essayer de montrer, c'est que justement, avec le punk et en tout cas la British Invasion, c'est beaucoup plus compliqué. Donc comme on va voir avec les premières bandes dessinées qui vont être en fait éditées par Vertigo Comics en 1993 et qui vont se battre justement contre la censure et qui vont faire intervenir un certain nombre de punks dans leurs pages, on voit qu'il va y avoir un discours politique qui était totalement interdit auparavant. Le discours politique en plus est extrêmement clair, c'est-à-dire qu'on va se moquer, on va critiquer de manière absolument frontale la politique de Margaret Thatcher. Voilà, vous avez Hellblazer. Donc, alors Hellblazer, il faut savoir que c'est les aventures de John Constantine. John Constantine est, comme vous allez le voir ici, il est punk et il connaît Sid Vicious. Donc, et puis il est magicien, ça faut le retenir pour la suite parce que c'est extrêmement important. Donc il est magicien. Donc j'ai essayé de me poser la question. Qu'est-ce que c'est qu'être punk en bande dessinée ? Parce que si c'est pour faire un rapport de surface et vous dire qu'il y a des punks en bande dessinée, ça n'intéresse absolument personne. Et donc, d'où l'intérêt de vous parler de Grant Morrison. Grant Morrison, l'influence de son travail, l'intérêt de son travail, ça va être qu'il va réussir à merger, comme on dit en mauvais français, il va réussir à mélanger deux influences. La première, ça va être le punk. Et la deuxième, ça va être une culture extrêmement importante qui va être la magie du chaos. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais en parler dans deux minutes. Donc lui-même, Grant Morrison, il se sent pas punk jusqu'en 1978. Pourquoi ? Bah parce qu'il a du mal avec la croix gammée, entre autres, avec les images qu'il voit de Sid Vicious, ça le fait absolument pas marrer. Dans l'émission Top of the Pops, il va voir les ex-respects, et à partir de ce moment-là, il va se sentir lui-même punk. Alors, voilà. Je vous laisse lire, donc I was a punk, I'd always been a punk, d'accord, tout ça pour dire qu'en fait il va se rendre compte que c'est ce qui est la chose la plus importante à retenir, c'est qu'en fait ce qu'il n'avait pas compris, ce qu'il a compris à partir de ce moment à la télévision avec Top of the Pop, c'est que toute sa culture qu'il a pu reconstruire était en réalité punk. Ça c'est sa première influence, ça va être donc la musique. La deuxième influence, ça va être la magie du chaos. La magie du chaos, il va en commencer à en parler dans le magazine Heartbreak Hotel en 1988. Alors on voit assez mal. Là, à droite, vous avez une de ses premières bandes dessinées qui est, enfin, bande dessinée punk qui est Born Again Punk, d'accord, où il va expliquer l'importance de cette musique pour lui. Mais on va aller beaucoup plus loin avec l'image suivante, qui va être une sorte de texte programmatique pour lui. Donc ça, c'est dessiné par Grant Morrison. Alors, cette image, elle est très intéressante, j'espère qu'on la voit bien. C'est pour toutes les références qu'il va y avoir. Le rapport au syncrétisme et le rapport qu'il va y avoir justement au texte programmatique que lui-même va mettre en œuvre. Alors, si vous regardez bien cette image, vous voyez énormément de choses, vous voyez énormément de références. Vous avez Batman, Animal Man, qui sont deux comics dont il va être le scénariste. Vous avez No More Firmament, pardon. Donc Il n'y a plus de firmament, qui est une référence au livret qu'a écrit Antonin Artaud pour Edgar Varèse en 1928. Vous avez des références au cinéma expérimental de Lindsay Anderson, avec des phrases qui sont tirées du film If de 1968. Et vous avez des références au punk avec, par exemple, la phrase I saw Batman in the Laundrette, qui est une citation du groupe The Shapes en 1979. Vous avez également une étoile à huit branches. L'étoile à huit branches, c'est le symbole du chaos. Et vous avez la phrase Do what thou wilt de l'occultiste Aleister Crowley, donc fin 19e. Début 20e siècle. L'intérêt, là, dans cette image qui est une image programmatique, c'est qu'il va nous montrer ce que c'est pour lui, ce que lui va faire de ce mélange entre magie du chaos et punk. Et très rapidement, il va appeler cette magie, justement, la magie punk. Et c'est un terme qui va rester. Cette magie, ça va être un mélange d'énormément de théories et de thèses qui sont communes à la culture underground. Il va y avoir la sémantique générale d'Alfred Korzybski. Il va y avoir la thèse organique de orgonique de Wilhelm Reich. On pourra en parler plus tard. Toutes les théories fringe science qui ont été utilisées par William Burroughs ou plus récemment les thèses anarchistes d'Hakim Bey. Quand il a 19 ans, ça va être son oncle Bill qui va lui offrir des livres d'Aleister Crowley. Et il va y avoir surtout la référence au fait de pratiquer des rituels. Donc il va comprendre qu'il aime la bande dessinée, il aime le punk et il aime la magie du chaos. Donc il va commencer à mélanger les trois pour faire des bandes dessinées qui vont être rituels. Donc la magie du chaos, je rappelle, c'est ou la punk magic, comme il l'appelle, c'est une mouvance qui est née en 1975, donc à peu près au moment de la création du punk, avec deux Britanniques qui sont Peter Carroll et Ray Sherwin, qui sont les fondateurs des Illuminés de Thanateros, où vont officier plus ou moins ouvertement William Burroughs et Timothy Leary. Je ne sais pas si je peux essayer de vous montrer cette vidéo de Grant Morrison qui explique lui-même ce qu'il appelle, pas ce qu'il appelle d'ailleurs, ce qui s'appelle les sigils.
You can take that basic idea, and as we've seen, people like Austin Osmond Spare, the magician from the early part of the century, or Crowley, or the chaos magicians from the 80s, who were a big inspiration on me, they used this stuff. And what you can do is this, like I say, try this at home. Write in a desire. Quite simple, say, it is my desire that my cat wins the Olympics. Take out all the vowels. Right. Write this down, for fuck's sake, and do it. Don't just listen, do it, right. Take out the vowels, and you'll be left with a string of consonants. Take out the repeated consonants, and you'll be left with a string of consonants that have no repeats in it, you know, whatever, X, Y, A, D, whatever. Turn that thing into a little image. Take the D, draw a big D, then you've got a T, draw a T under it, and keep reducing it down until it looks magical. And there are no rules for this thing. Do it until it looks magical.
Alors pour ceux qui ne comprennent pas vraiment l'écossais, c'est ça l'accent, c'est ça. Mais c'est un joli accent quand même. J'essaie d'en remettre diaporama. Alors pour ceux qui ne comprennent pas, c'est qu'il explique qu'il va reprendre cette tradition du 19e siècle du sigil. C'est-à-dire, vous prenez une phrase qui est un désir, vous enlevez les voyelles, vous enlevez les consonnes qui se répètent, et après vous faites un rituel qui vous pouvez boucher les oreilles des enfants, que vous chargez, entre guillemets, en vous masturbant. Voilà, ça c'est le principe de la magie rituelle du sigil. Alors... cette pratique est très ancienne, puisqu'on m'a demandé de parler de la France. Voilà la référence française qui existe, Psychic Bible de Genesis Peerage, qui parle énormément de sigil. Un des intérêts de ce livre, c'est qu'il a été traduit par Jean-Pierre Turmel de Sordide Sentimental, et que en fait, vous pouvez voir qu'il y a toute une culture qu'on ne comprend pas en France, qui est entre autres... donc cette magie du chaos. En France, il y a énormément de musiciens qui vont s'y référer, comme par exemple Barn Balta. Alors Barn Balta, il fait partie du groupe, on va dire, qui est dans une démarche punk, musique industrielle, qui fait cette newsletter, Life Without Sex, qui parle énormément de magie rituelle et d'ésotérisme. Donc pour revenir à Grant Morrison va commencer à utiliser cette magie rituelle dans la création de ses comics. C'est-à-dire que, par exemple, pour s'assurer que son comics Les Invisibles continue à marcher, il va publier ce sigil qui est ici et va demander à tous les lecteurs de se masturber le même jour, qui est Thanksgiving 1995. Alors, il faut savoir que c'est difficile de comprendre ça, surtout quand on est français, mais ces gens-là sont sérieux, en fait. Voilà, et je le dis sans la moindre moquerie. Vous avez des références au sigil qui viennent aussi des années 70, c'est pour ça que j'ai mis ici Led Zeppelin. Alors Led Zeppelin ici, c'est vraiment une référence très nette au sigil de Stinus Mansper. Alors je vais aller un petit peu vite, je vais revenir sur son comics qui est peut-être le plus important, qui est Les Invisibles, 1990. Alors, à partir de ce moment-là, Grant Morrison va arrêter de faire des sigils pour commencer à construire ses comics. Il va décider que, comme les sigils, c'est du dessin, et ben, il va transformer la totalité de ses comics en sigils, c'est-à-dire en pratiques rituelles chaotiques et ésotériques. Et ça, il va le faire avec ce comic book qui s'appelle Les Invisibles, que je vous conseille chez Vertigo. Alors, c'est pas super évident à lire. Vous pouvez voir les personnages des Invisibles. Au milieu, le chauve, vous pouvez le voir, c'est le portrait craché donc, de Grant Morrison. Bah, il va profiter de cette bande dessinée pour opérer un rituel chaotique sur lui-même. C'est-à-dire qu'il va décider qu'il va se transformer en personnage qui s'appelle King Mob. D'accord ? King Mob, c'est une référence à un mouvement... aux alentours des situationnistes, c'était un mouvement auquel était attaché Malcolm McLaren en Angleterre. Donc c'est plus ou moins des situationnistes. Il y a des références ici. Ça, c'est peut-être une de leurs références les plus connues. Il faisait des graffitis dans les murs, sur les murs, pardon, à Londres. Il faisait des faux attentats. Aussi, c'était assez drôle. Donc Grant Morrison va décider qu'il va se transformer en ce personnage de King Mob. Donc il va faire un certain nombre de rituels. Il va, par exemple, faire un certain nombre de sigils. Il va essayer de transformer son apparence pour ressembler le plus possible au personnage. Il va essayer de fréquenter les personnes qu'aurait fréquenté le personnage de King Mob. Il va essayer des drogues qu'aurait essayé King Mob, d'avoir des expériences sexuelles SM, par exemple, parce que lui n'est pas intéressé par ce genre de choses, mais King Mob est intéressé par ce genre de choses, et voir ce que ça donne. Donc quand il en parle, c'est assez intéressant, parce qu'il en parle par rapport à la magie du chaos, donc par rapport à toute une tradition ésotérique qui vient, entre autres, du 19e siècle, mais il en parle aussi par rapport à la musique, puisqu'il parle de la transformation de Johnny Lydon en Johnny Rotten, et il va parler, évidemment, de la transformation... De David Jones en David Bowie. Ça peut paraître totalement ridicule et je m'en rends compte parce que j'ai parlé avec des acteurs de la magie du chaos en fait, qui ont beaucoup de mal à comprendre le fait qu'on les prenne pas au sérieux, alors qu'eux sont vraiment très sérieux. Ils font leur rituel avec la Psychic Bible, ils se masturbent, ils font des trucs en commun, etc. Et surtout, ils sont persuadés que ça marche. Et Grant Morrison est persuadé qu'effectivement, le fait de faire ses sigils, de faire ses rituels magiques, marche. Alors j'ai essayé de m'intéresser peut-être à des références plus anciennes. Dans les références plus anciennes, bien avant le punk, il y a une référence de Grant Morrison qui est Pic de la Mirandole, donc qui est 1463 et 1494, sur le fait d'essayer d'effacer la frontière entre la réalité et la narration. Il y avait quelque chose qui m'intéressait peut-être un petit peu plus parce que c'était plus de ma culture, c'était Mallarmé. Et Mallarmé, dans le poème sur son fils Anatole, donc un tombeau pour Anatole, me semble-t-il, 1879, avec la mort de son fils, essayait de le reconstruire par le biais de la narration. C'était pas un fantasme, c'était le fait d'essayer de trouver une zone grise qui serait entre une narration, une recréation qui serait artistique, et justement, cette espèce de fantasme. Et Mallarmé dit qu'il tente cette reconstruction littéraire pour ne plus le voir qu'idéaliser, après non plus lui vivant là, mais germe de son être repris en soi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir les punks qui disaient, ben voilà, on va essayer de prendre trois accords et on va essayer de faire de la musique. L'intérêt et la démarche qui est punk, avec ces personnages qui sont punk dans les bandes dessinées de Grant Morrison, c'est précisément de se dire que vous avez des outils de magie rituelle, vous avez des outils de magie ésotérique, vous avez des textes, vous avez The Psychic Bible, vous avez le Book of Lies, qui est d'autant plus intéressant là, chez cette Disinformation que vous avez un certain nombre de punks qui y participent. Vous avez Genesis Peerage, donc Genesis Peerage a fondé sa secte Topi, c'est pas le moment de revenir dessus. Vous avez Grant Morrison, et c'était le fait que la magie existe, la magie du chaos existe, et que donc ce que vous devez faire, vous n'avez qu'une seule chose à faire, en particulier si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est que vous devez rentrer chez vous et essayer par vous-même. Voilà. Donc je fais pas de dessin sur ce que vous devez faire ou que vous ne devez pas faire, mais c'est exactement le message. Et ça, pour le coup, c'est un message qui est punk. Voilà. Je suis désolé si j'ai pas été clair, j'ai été un peu perturbé. Voilà, je vous remercie.
Merci pour cette incursion du coup vers le domaine des rituels. Je ne sais pas s'il y a des questions aussi bien d'ordre pratique, théorique sur ce qui vient d'être dit. C'est vrai que j'étais un peu surprise qu'on s'oriente vers ce domaine plus ésotérique parce que c'est peut-être pas forcément ce à quoi on associerait immédiatement le punk. Donc peut-être ça peut être intéressant de revenir, enfin je sais qu'on n'a plus beaucoup de temps, mais de revenir un peu plus précisément sur cette articulation entre un domaine qui peut peut-être paraître plus intérieur, plus voilà, mystique, et l'action politique du punk.
En fait, le fait est que quand on s'intéresse à ces auteurs de comics anglais, donc de la British Invasion à partir de la fin des années 70, au moment de l'explosion du punk, on sent bien qu'ils sont en train de se créer une culture. Les punks, quand ils essaient de se créer une culture, ils se disent, bon ben voilà, on va faire table rase d'une certaine manière de la culture hippie, et on va revenir au rock'n'roll des années 50. Eux font, voilà, on va revenir justement à une littérature fin de siècle, on va revenir à un ésotérisme milieu des années du 19e siècle, début du 20e siècle. En fait, pour eux, c'est une référence qui est une référence libertaire. Donc, c'est une référence qui est totalement logique pour eux. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand on voit des textes sur la magie, qui sont par exemple les textes de Giordano Bruno, on voit qu'il y a un rapport entre le mage, qui est un réprouvé de la société, et on voit un certain nombre de mots dans ces textes, un certain nombre d'expressions, un certain nombre d'analyses de Giordano Bruno qui peuvent parfaitement correspondre à ce qu'on considère être un punk aujourd'hui, en fait. Et c'est assez logiquement que les punks ou un certain groupement punk s'est approprié cette culture de la magie du chaos dans les années 70.
Est-ce que c'est encore des recoupements actuels aujourd'hui ?
Tout à fait. C'est des regroupements actuels aujourd'hui. Là, puisqu'on parlait de la France avec Barn Balta, donc encore une fois, c'est une démarche punk, mais c'est aussi la musique industrielle. Toutes ces références là, j'ai ces newsletters, Life Without Sex, tournent autour d'une analyse qui mêle politique, musique et magie du chaos. Et encore une fois, c'est une culture. C'est ça qui est très difficile pour nous, je pense, de comprendre. Et lui, il avait peur, Barn Balta, quand il me parlait de son travail, parce qu'il me disait, je vais passer pour un imbécile, il faut que tu leur parles de l'égrégore. Et je lui ai dit, mais même si je leur parle de l'égrégore, ils te prendront pour un imbécile. Donc voilà, il faut des outils scientifiques, intellectuels, voilà, et puis peut-être être un petit peu ouvert d'esprit, je pense, puisqu'il faut absolument de mal à personne. Et qu'il y a des belles œuvres qui sont là dans le domaine de la musique ou dans le domaine du comics.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est peut-être cet apparent paradoxe entre le fait de se soumettre à justement un rituel, donc à un ordre bien établi, et la volonté par ailleurs de rester libre. Enfin, c'est une articulation complexe.